Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons à nouveau dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Xavier Gral, La fête de nuit. Arzel et sa mère se regardèrent intensément, yeux noirs contre yeux gris, regard de douleur contre regard d'amour. Il y eut dans cet échange, en quelques secondes, toute la noblesse des attachements charnels. Ils se retinrent de s'embrasser. Maria Glohanek sourit et son fils répondit à son signe, tout simplement. Mais l'un et l'autre savaient qu'ils n'étaient pas libres, que le destin marche et broie sans que l'on puisse rien. Maria se tenait debout près de son fils qui mangeait les huîtres avec un plaisir qu'il exagérait. Maria était contente de voir qu'il pouvait lui donner de la joie malgré la tristesse de sa séparation. Elle dit après un long moment « Tu iras au cimetière, Arzel. La tombe doit être bien seule depuis le temps, bien seule et bien sale. Tu feras le nécessaire, n'est-ce pas ?» « Oui, mam. » Arzel ne levait pas les yeux pour ne pas montrer son trouble. Il s'en voulait de tout. Mona allait le prendre à ses gisants, à ses vivants, à celle qui l'avait le plus aimé. Il répéta « J'irai ». La vieille horloge de Quimper, ramenée du Ménec, battait les secondes graves, inexorables. Maria vit la tristesse de son fils et s'empressa de compléter le repas. Elle alla dans la cuisine et en revint avec une superbe tranche de foie de veau. « Mange, Arzel, c'est très bon pour toi. » Puis, sans transition, pour ne pas le laisser à sa peine, elle dit « Tu as peut-être raison après tout. Le Ménèque a besoin que la famille aille lui rendre visite de temps en temps. C'est si vieux, si abandonné. » Et une fois de plus, elle lui raconta les jours heureux qu'elle y avait passés avec ses parents et avec son mari. Elle savait tout. La moindre salive, le moindre centimètre de grenier, les odeurs de la grande salle, le craquement de chaque poutre. Et les travaux et les jours du temps jadis, et les deuils et les fêtes, les jours sacrés de la mort et de la vie, elle savait tout. Elle savait la couleur du soir où lui était venu le télégramme des armées lui annonçant la disparition de Jan Varig Glohanek sur le front. Elle savait les étés d'autrefois, les festounos de juillet après la moisson. Elle savait le grand silence des hivers, quand les vents de Galerne accouraient d'Ouessant et de Molène, beuglant dans les chênaies du Méné, écaillant les grosses ardoises des écuries. Elle savait le canadiscan des derniers pilawer de Braspar, des gars pleins de vinasses et d'espièglerie. Elle savait les neiges éphémères de Bretagne, les neiges bleues, le miracle des neiges bleues sur le pastel du schiste. Elle savait les jours de la mort et de la vie, la rude vie, la belle vie de ces paysans farouches et volontiers lyriques qui toujours savaient voir au-delà de la colline l'inquiétant, l'incomparable destin de ceux qui trépassaient dans leurs gilets noirs de hauts seigneurs occidentaux. Elle savait tout, les saunes et les cantiques, et les légendes de Tatkos qui l'effrayaient quand elle n'était qu'une gamine, que les derniers loups d'Armorique faisaient trembler d'effroi dans les mois noirs, les mois tout ras, tout plats, tout effeuillés, tout attentifs, tout religieux du bout d'année. Elle savait tout. Les croix dans les enclos, les auberges où sa mère allait chercher les hommes, et le temps des pluies en septembre douce, humaine, quand les enfants en sabots, la pèlerine sur les épaules étroites, s'en allaient vers l'école par les chemins venteux, le capuchon touchant les nuages fous que déchiraient à bec et à peine les grands freux braillards et funèbres. Elle savait tout, la peine et le rire, les hurlements à la mort des grands chiens roux et l'allégresse véhémente des pardons, surtout celui de Rumingol, tout proche de Ménec. Quand elle eut fini d'égrener les choses de sa mémoire, elle dit « Je vais finir, Arzel, je veux pas t'ennuyer. »« Tu m'ennuies pas, mame, c'est le pays. » Il eût voulu ajouter une profession de foi politique, mais elle lui parut inutile. Il n'était pas bon de répéter ce que Maria savait. Souvent les choses perdaient de leur vérité d'être dites. Lui qui avait profession d'écriture, il savait que les mots ont leurs limites, que les plus beaux d'entre eux, les plus vrais, ne devraient pas être exprimés de langue d'homme. Bientôt, Maria Glohanek desservit la table et apporta le café. Tous deux, ils burent à petites gorgées. Arzel alluma une cigarette et Maria en prit ombrage. « Encore, dit-elle, tu ne devrais pas, fils. Le tabac te pourrit les bronches, tu le sais. »«
Je ne peux pas m'empêcher, mame. »«
Pourquoi ?»«
Puisque cela m'aide pour mon travail. J'ai toujours envie d'aller ailleurs. »
Ailleurs, oui, va. Mais sais-tu où ça te mène? Je vais te le dire. Dans le pays des morts.
N'exagère pas, mame.
Mais je te le dis.
Elle avait raison.
Arzel pensa que sa mère avait toujours raison pour tout. Il pensa qu'elle était voyante, elle aussi, de la voyance la plus sûre, la moins mensongère, celle du cœur.
On mourra tous, mame.
« J'ai pas peur de mourir, de souffrir, oui, mais de mourir, non. »«
Et moi, tu ne penses donc pas à ta mère ?»
Il ne répondit pas. Il s'en voulut d'avoir choisi. Son choix allait à Mona, la belle et terrible Mona. Il eût voulu prendre dans sa main la main ridée de sa mère. Mais ce geste n'eût pas été dans les convenances secrètes de sa race. Il tenta de changer le cours de la conversation.
« Je crois qu'il fera beau, » dit-il.
« Pour moi, Arzel, bientôt, il ne fera plus soleil, » répondit Maria Glohanek. Elle s'était assise sur un bout de chaise à la façon des paysannes, toujours en transit entre le service des hommes et celui des bêtes. Maria Glohanek était belle encore malgré les rides de l'âge, mince, droite, le visage fier sous des cheveux noirs. On la sentait faite pour le grand air du Ménès-Homme, pour les foins et les blés, pour le gouvernement du Ménec qu'elle n'eût jamais quitté sans les malheurs du temps. Cet exil forcé avait beaucoup compté dans la vocation de son fils. La mère diaspora l'avait portée à chercher par l'écriture les chemins de la terre promise. Il avait coutume de citer la phrase de Jérémie « Tu reviendras dans ton pays et tu y planteras des arbres. »
« Je te le dis, ce tabac te pourrit les bronches, » répéta sa mère.
Et elle ajouta, évitant de le regarder pour ne pas le gêner,
« Tu n'es plus pareil, Arzel. »
« Il y a quelqu'un dans ton cœur, une femme, sûrement. » Elle se reprocha cette audace. Jamais Maria Glohanek n'interrogeait son fils sur ses relations féminines. Jusque-là, il n'y avait eu que des compagnes de quelques nuits, des filles trop légères pour le lui arracher.
« Bah, des passantes, » disait-elle intérieurement.
Elle devinait cette fois une liaison plus forte. Elle savait lire en lui.
Il était son garçon, son unique Gloanec, et sa chair savait lire dans sa chair.
« Elle s'appelle Mona, » murmura Arzel, comme malgré lui.
« Mona, une fille de là-bas, n'est-ce pas ?»«
C'est ça, de là-bas, mam. »
Elle l'observa encore, s'inquiéta de la pâleur de son visage, des quintes de toux qui le secouaient périodiquement, de la fébrilité de ses mains, de ses grands yeux pleins de fièvre. Elle avait beau prier « Santes Hana », la maladie avait progressé dans son corps.
« Mais c'est bien qu'elle soit de là-bas, » dit-elle. « On se comprend mieux, n'est-ce pas ? C'est si difficile de vivre ensemble, tu comprends ?
Oui. »
« Si seulement cette femme pouvait te protéger de toi-même, te donner quelque sagesse. »«
Sagesse ? Quelle sagesse ?»
Ce mot irritait Arzel. Il n'avait jamais pu être sage.
Il comprit que Maria revenait une fois de plus sur les menaces qui planaient sur sa santé. Elle était inlassable, presque féroce, sur ce chapitre-là.
« Je suis comme ça, mam. Vous m'avez fait comme ça. S'il n'y avait pas tout ça, ces plaisirs-là, je crèverais d'ennui. Tu sais bien, toi, ce qu'est l'ennui. Errer dans la mare, se lasser de tout, même du ciel qui est au-dessus de nous. »
J'ai eu mes heures vides, Arzel. J'ai eu mon compte. Je me suis remise à marcher, il le faut.
Une insupportable tristesse descendit en lui. Il jeta un regard autour de lui pour chercher du secours dans les choses. Les choses ne bougeaient pas, ne disaient rien. Même pas la bibliothèque qu'il avait patiemment montée. C'était gris. Rien ne parlait. Rien ne disait rien. Il fallait toujours réinventer le monde pour se tenir debout, pour ne pas stagner. Il fallait fumer, boire, rire, afin de susciter le miséricordieux déclic de l'amour.
Quelque chose nous est arrivé, mam, quelque chose de mortel. On ne croit plus en nous et c'est un châtiment que nous n'avons pas mérité.
Toujours tes idées, répondit-elle, tes interrogations, tes rats qui te courent dans la tête. Ah, le métier de ton père, c'est ça qu'il te fallait, charruer, faner, moissonner.
Peut-être que le métier n'y fait rien, dit Arzel, il y a aussi des paysans fous.
Mon fils, tu n'es pas fou. Tu penses bien, mais tu penses trop.
Cependant, Arzel répéta, quelque chose nous est arrivé.
Si c'est Mona qui t'enfonce un peu plus dans ta nuit, quitte-la, mon fils, il ne faut pas, il y a d'autres femmes.
Pas comme celle-là.
Il est des chemins et des horizons où la vie reprend ses droits. Il est des sentiers, il est des vallons où le cœur revit ses joies. Il est des matins et des lendemains où courent les vents et meurent les peines. Sur les chemins de la bohème, tu ne vieilliras pas. Si tu ne vis que de rêves, le temps t'épargnera. Si pour toi le jour se lève sur un autre nid, sur une autre envie, sur une autre chanson, sur un autre refrain, une autre raison d'aller vivre plus loin. Il est des poèmes et des mélodies qu'apportent les vents du soir. Il est des chansons et des harmonies où la vie fleurit d'espoir. Il est des amours et des amitiés où naît le bonheur et meurt les peines. Sur les chemins de la bohème, tu ne vieilliras pas. si tu ne vis que de rêves, le temps t'épargnera. Si pour toi le jour se lève sur un autre nid, sur une autre envie, sur une autre chanson, sur un autre refrain, une autre raison d'aller aimer plus loin. Il est des regards et de longs voyages vers de nouveaux horizons. À chaque tournant, à chaque rivage, mûrit d'une nouvelle moisson. Il est des grandeurs, il est des oublis, où naît le bonheur et meurent les peines. Sur les chemins de la bohème, tu ne vieilliras pas. Si tu ne vis que de rêves, le temps t'épargnera. Si pour toi le jour se lève sur un autre nid, sur une autre envie, sur une autre chanson, sur un autre refrain, une autre raison d'aller mourir, mourir plus loin.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
La fête de nuit, Xavier Gral. Arzel se leva pour prendre la bouteille d'hydromel dans le buffet. C'était une bouteille fine et longue avec une étiquette joliment celtique. Il n'aimait pas l'hydromel, il en buvait par fidélité au sien et aussi à cause de l'étiquette. « Tu ne devrais pas, » murmura Maria Glohanek. « Juste une larme. »« Je trinque avec toi, fils, j'aime. » Ils burent l'alcool des dieux. Le miel et le soleil des jours coula dans leurs veines. « Moi j'aime ça, » répéta Maria Glohanek. À cause des souvenirs, et puis c'est doux, vraiment. Elle eût voulu lui donner le peu de joie qu'elle possédait, le dernier or de sa joie. Mais elle connut son impuissance. Il arrive toujours un moment où l'on ne peut rien pour les êtres que l'on aime. Elle n'était que Maria Glohanek, une femme de rien qui avait tout donné pour l'instruction de son fils. Sa tâche était accomplie. Maintenant, elle pouvait vieillir vraiment, courber le dos. Elle n'aurait plus que sa mémoire pour se souvenir. La vie, c'était autre chose, elle le savait. C'était à lui, Arzel, de l'empoigner, de faire face. Ah, elle se reprocha de n'avoir pas encore assez fait pour lui, pas assez travaillé, pas assez aimé. Elle prit conscience subitement des limites de son cœur et de sa volonté. Elle eût aimé que l'œuvre de son fils illuminât ses jours, que la maudite ville le reconnût. Et puis s'en aller de la vie, tranquille enfin, inconnu, consolé. Mais Arzel butait sur de mystérieux obstacles. Malgré sa jeunesse, il semblait avoir épuisé le goût de vivre et celui de se battre. Il ne faisait rien pour lutter contre son mal. Peut-être était-il de cette race d'hommes qui brûle les étapes et qui se détruit lentement, macérant regrets, nostalgie. Cette race fascinée par des lointains inaccessibles, divisée avec elle-même, partagée entre le noir et le blanc. Ces hommes étaient trop lucides pour s'émerveiller durablement, trop poètes pour obéir à leur raison, sublimes raclures de société implacable, surgeons évanescents d'un arbre foudroyé. Elle s'enquit. « Tu travailleras, hein? Tu me promets? Oui, je te le jure. » Et lui, Arzel, pensait à Maria Glohanek avec tout autant de remords.
il n'avait pas fait assez pour elle. Elle resterait seule. Seule dans le faubourg de rouille et de fumée, gagnant chaque jour la ville pour y travailler, seule avec tout ce temps de suie et d'ennui qui lui userait la main et le cœur jusqu'au grand âge venu, où elle s'en retournerait au Ménec, où personne ne la reconnaîtrait plus, où les hiboux voletteraient sur ses pas, guettant sa fin. Que valait donc cette république où les émigrés et les migrants bâtissaient la fortune d'une poignée, cette république dont Maria Glohanek un jour avait découvert la bassesse, quand, écrue de fatigue et de misère, elle s'était entendue dire « Faudra voir à apprendre le français, Bécassine !» Maria Glohanek n'avait pas répondu. Elle avait enfermé l'injure dans son silence pour toujours. Et elle s'était jurée de donner à Arzel les moyens de relever l'affront. Mais à cette heure-là, le fils pensait que l'affront n'était pas encore lavé et que Maria Glohanek resterait une femme humiliée tant qu'il ne lui donnerait pas la gloire fragile mais nécessaire d'une œuvre incontestable. Il répéta « Je travaillerai ». « Tu vas être bien seul, fils. Tes armes ne sont pas de ce monde, je crois. » « J'essaierai. Je ne veux pas qu'il y ait la moindre moquerie autour de toi. Surtout, n'imagine pas que je suis malheureuse. Tu m'as rendu tes comptes, Arzel. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux que tu sois content avec toi-même. »« Mam, je n'ai encore rien fait. Peut-être que je vise trop haut. Je ne suis pas digne de tout le rêve que je porte en moi. » Il se parlait à voix basse. De temps à autre, il jetait un regard furtif vers la photographie de Jan Vary Glohanek dans la gloire paysanne d'un autre temps, comme s'ils avaient besoin de ce témoin muet qu'une balle avait raflé dans les Flandres par un été qui sentait la fleur et le sang. La photo était sur le buffet près d'un Christ de buis noir. Souvent, Maria Glohanek s'immobilisait devant elle comme une priante devant un ex-voto. Et elle parlait à son mari par-delà la porte des morts. L'horloge continuait de battre les secondes. Dans le modeste appartement de Maria Glohanek, le bruit du temps prenait une importance singulière. Une voisine se plaignait d'entendre les heures pendant la nuit. Cependant, Maria persistait à remonter les poids chaque soir avant de se coucher. Il s'agissait pour elle d'un acte auquel elle n'eût pu se soustraire. Tant que vivrait l'horloge, il lui semblait que vivrait le Ménec. Il faut toujours que les rêves soient hauts et grands, dit-elle. Ils sont faits pour ça, car la vie est trop petite. Oui, mam. Il y eut un silence au milieu duquel ils entendirent la rumeur de la rue. C'était dimanche. Les gens sortaient du cinéma. Si j'avais été instruite, fils, j'aurais fait comme toi. Je n'ai pas pu. En ce temps-là, les femmes, on les mettait à la dure, tout de suite. C'était vrai. Arzel ressemblait à Maria. C'était d'elle, de son enfance en galoche, sous la hampe des prunelliers, qu'il tenait cette rage de poésie. Dans les brumes du Ménézôme, il avait ramassé l'ouarie spirituelle, au grand chemin qu'emprunterait le fils au nom et en place des siens. Transmission de la parole, non, il n'abdiquerait pas. Il mettrait dans sa marche le courage ultime du dernier souffle. Comme le chantait Glenn, il irait mourir plus loin. Il repousserait les murs du visible, il aimerait encore, il haïrait encore, il irait au vent, à la lame, au large, sentier de Rosnoen et route d'Argol, frémissement des chênaies, ruissellement de l'Aune. Là-bas les enchantements, là-bas la douce invitation de l'ogive au seuil des demeures, là-bas la création. Il va être temps, mam. Ne te presse pas, fils, je suis bien avec toi. Ils se regardèrent et firent semblant de ne pas se voir. Regard frôlé, L'un et l'autre, ils pensaient à ce qui n'est pas écrit, à ce qui ne sera jamais écrit, à tout ce qui les reliait pour toujours et qui ne se mesurait pas. S'il était le navire, Maria Glouanec était l'ancre. « Oui, ce Chouchen est vraiment très bon, » dit-elle, pour masquer son émotion. « Ma valise est faite, » répondit-il, « je vais partir, mais je ne prendrai le train que demain. Il faut que je voie Glenn. »« Alors, reste encore, Arzel. » Maria n'aimait pas que son fils lui parle de son ami. Elle pensait que l'amitié de deux poètes multiplie les folies. Chacun devait prendre son propre chemin. Le salaire des bardes était la solitude. Cependant, Mona l'inquiétait plus encore. « Tu vas aller là-bas avec cette fille, Arzel ?» Il eut du mal à dissimuler sa gêne. « Peut-être. »« Que va-t-on dire? C'est encore la maison de ma famille, tu comprends? J'ai l'âge, mam, plus que l'âge. » Maria Glouanec voyait-elle en Mona une rivale? D'où lui venaient ces airs sévères quand elle en parlait? Maria se disait qu'Arzel la lui aurait présentée s'il s'était tenu en paix avec lui. Demeurait aussi en elle le vieux sens de la respectabilité. En Bretagne, tout se savait. Les rouvres avaient des oreilles, les fenêtres avaient des yeux. « Peut-être que tu devrais attendre, » murmura-t-elle. « Non, mam, je me sens pressée, pressée partout, le temps, les choses, les êtres, c'est peut-être idiot. »« Je te le dis, encore une de tes idées, tu ressembles à ton père, c'était un homme sombre. »« Il ne se trompait pas beaucoup, mam, mourir comme ça, dans cette pauvre guerre, si jeune. »« Ne parle pas comme ça, Arzel. » Et pourquoi? J'avais 10 ans quand il est parti. On aurait dit qu'il savait. Il évita de regarder sa mère. Maria Glouanec avait toujours les larmes dans les cils quand on parlait de son mari. Elle dévia la conversation par pudeur. Et toi, que sais-tu, fils? Je veux avoir ma mort à moi au bout de mon sillon. Ma mort à moi, ils ne me la voleront pas. Voilà ce que je sais, mam. Tu parles toujours de la mort. Mais la vie, voilà ce qui compte. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Xavier Gral, La fête de nuit, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.